Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le lundi 28 mars, il est 8h30 et j'espère vraiment que l'avançage d'une heure n'a pas été trop dur pour vous. La neige lui manque déjà, mais t'inquiète pas, elle revient fin de semaine à la technique Corto, salut.
Salut, salut, bonjour à tous. Oui, le froid est de retour.
Je tenais à te mettre de bonne humeur dès le lundi matin. Voilà qui est chose faite. Allez, au programme de cette matinale, nous sommes allés à la rencontre de Thomas à la fête du slip samedi. Il faisait beau, il y avait du monde, c'est cool. Avec lui, on va faire un point sur la situation catastrophique pour les migrants de Calais. Pourquoi ? Bah, c'est justement parce que la fête du slip, tous les bénéfices sont reversés à des associations d'aide pour les migrants là-haut. Nous aurons ensuite la responsable du musée Sévenol du Vigan qui réouvre ses portes ce week-end. Estelle Boujotte sera avec nous par téléphone. Et enfin, le reportage complet du spectacle Tombé en amour, c'était il y a 15 jours à Meyrues. Le tout avec de la musique. Aujourd'hui, une amie artiste qui s'appelle Cléo Marie. Et on commence Corto par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Ouais, difficile de trouver des éditos en ce moment puisque la guerre en Ukraine et la campagne présidentielle polarisent le débat public et médiatique, le sature même. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau et à la limite on doit trouver ça normal. Le contraire serait sans doute choquant. En ce qui concerne la présidentielle, ça y est, c'est officiellement aujourd'hui que la campagne commence. Avant, c'était pas la campagne. Maintenant, c'est la vraie campagne. La vraie campagne, oui. Avant, c'est-à-dire jusqu'au 27 mars, les médias ont dû respecter le principe d'équité du temps de parole et du temps d'antenne selon le poids politique de chacun des candidats. Désormais, les services de télévision et de radio, ça ne s'adresse pas à la presse écrite, doivent respecter une stricte égalité des temps de parole et des temps d'antenne entre candidats. Oui, parce qu'en plus du temps de parole que les télés et les radios doivent décompter, apparaît maintenant le temps d'antenne, une notion uniquement utilisée pour la présidentielle. Ce temps plus large comprend la parole du candidat, bien sûr, et de tout ce qu'il y a autour, comme la description par un journaliste d'un meeting, par exemple. Les deux semaines précédant le premier tour, le principe d'égalité du temps de parole et d'antenne accordé aux candidats et leur soutien avec le même accès aux tranches horaires devient la règle. On va donc en bouffer pendant 15 jours qui arrivent, pas d'inquiétude parce qu'il n'y a pas de temps de maximum. C'est ça, c'est bien dommage. Évidemment, quid de la parole du président candidat? Eh bien finalement, c'est assez simple. Lorsqu'il parle de l'international et donc de l'Ukraine ou de l'Europe, Europe dont la France a la présidence, ce temps de parole ne sera pas décompté. Et oui, la guerre pour Macron est malheureusement un bienfait. Ça lui permet de se tenir au-dessus de la mêlée. Ça aurait été pareil si le conflit n'avait pas eu lieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de garder la présidence de l'Union européenne, alors qu'il aurait pu passer son tour et la prendre plus tard. Pas folle, la guêpe. Allez, courage, ça s'arrête le 24 avril prochain. Espérons que le conflit en Ukraine, lui, s'arrête bien avant ça. L'espoir fait vivre. On part à la fête du slip, événement rigolo pour un sujet plus que tragique. On écoute d'abord Cléo Marie. Le morceau s'appelle Léo. A tout de suite.
On était très amis, déjà enfants. Copines comme cochons, disaient nos parents. Un jour tu m'as emmenée dans ta chambre. C'est là que j'ai rencontré ton amant. Il y avait sa tête partout sur les murs. Je m'en souviens, c'était mon premier coup dur. Alors si jeune, j'ai construit mon armure. Ma chérie, t'étais ma première blessure. Apparemment, t'étais pas seule sur terre à aimer cette vieille gueule de prépubère. Entre nous, il était comme une barrière. J'aurais tellement aimé autant te plaire. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Tu m'emmerdes avec Léo. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Je me casse à Rio de Janeiro. Quand j'ai eu ma première poussée d'acné, tu faisais déjà du 90D. t'ai senti t'éloigner. Alors je t'ai invité au ciné. Bien sûr, on est allé voir Titanic. Ton choix me paraissait assez logique. Ce gros con ne s'est pas noyé dans l'Atlantique. À en croire sa carrière cinématographique. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Tu m'emmerdes avec Léo. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Me casse à Rio de Janeiro. Tu me disais, Léo, il est chouette. T'es vraiment irrécupérable. Tu m'inquiètes. Et ce bouffon de Cupidon, il s'est trompé de fléchette. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Tu m'emmerdes avec Léo. Tu m'emmerdes avec Leonardo DiCaprio. Tu m'emmerdes avec Léo.
La fête du slip, en ce jour du mois de mars, il fait beau, il y a du monde. Salut Thomas.
Eh ben salut.
Eh ben, tu vas nous expliquer c'est quoi la fête du slip et surtout c'est pour qui?
Bah, la fête du slip, ça a été organisé par Manon de la Pompe, qui a invité la Redingote à faire un stand de restauration, donc avec des gâteaux, des tartes. Il y aura des œufs à l'afghan tout à l'heure. Et en fait, tous les bénéfices serviront à acheter des sous-vêtements pour qui seront distribués à Calais par Utopia 56 et Refugee Women's Center.
Alors, est-ce que tu connais la situation là-bas? Est-ce qu'on peut en faire un tout petit point?
Du coup, en ce moment, dans le nord, entre Calais et Grande-Synthe, il y a 1200, entre 1100 et 1500 personnes. Donc avec des démantèlements tous les deux jours sur Calais, c'est plus épisodique sur Grande-Synthe. Donc des populations qui viennent de partout, dont l'Ukraine aussi, sinon c'est beaucoup de populations afghanes, kurdes, du coup iraniennes, syriennes, érythréens, soudanais, et enfin des gens du monde entier en fait, qui essayent principalement de rejoindre l'Angleterre pour y demander l'asile.
Comment ça se passe pour les assos de travailler là-bas? Tu parlais d'Utopia.
Bah, c'est assez compliqué du point de vue du nombre de choses qu'il y a à faire. Là, tout de suite, Utopia, on fait l'accès aux soins de santé, des maraudes le soir pour essayer de trouver les nouveaux qui n'ont rien quand ils arrivent. Passer du temps sur le terrain pour voir aussi qu'est-ce que fait la police. Tous les deux jours, la police passe dans les différents points et ramasse les tentes, des fois les casse. Après, ironie du sort, une grosse partie va à une recyclerie où les exilés peuvent aller chercher leurs tentes à la recyclerie. Et en fait, c'est le but de l'État est d'éviter tout point de fixation. Et pour éviter une jungle numéro 2.
Voilà des années, toi, maintenant que tu travailles avec les migrants. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, bien que ce soit tragique, ça doit te dire, mais pourquoi est-ce qu'on accueillerait plus les Ukrainiens que les autres, érythréens, syriens, etc. Quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Sans enlever la tragédie ukrainienne.
Moi je trouve que c'est bien et que c'est juste très, très, très dommage que ce soit pas pareil pour tout le monde. Et après, que ça montre aussi que la France, quand elle veut, est capable de faire les choses à peu près bien. Et non, oui, c'est tout à fait déplorable que tous les gens ne soient pas logés à la même enseigne, selon leurs origines et leur couleur de peau.
Quand tu disais lister les choses à faire, donc là, tu parlais d'accès aux soins de santé. Là, on parle de sous-vêtements aussi, c'est l'hygiène aussi, c'est vraiment en ça que ça manque là-bas aussi.
Bah, l'hygiène, c'est assez déplorable parce que les gens sont dans des conditions assez extrêmes, même complètement extrêmes, où en fait les associations n'ont pas de quoi changer tout le monde dès qu'il y a une pluie, parce que dès qu'il y a une pluie, tout le monde est trempé. Les tentes sont partagées à plusieurs parce que c'est énergivore en argent, en dons, de pouvoir distribuer des tentes tous les deux jours. Avec le Covid, il y a eu moins de festivals, donc moins de récupération de tentes aussi. Mais et après, oui, l'hygiène et la santé, c'est un gros problème sur Calais. Ouais. Et la santé mentale, notamment aussi. C'est des gens qui vivent des traumatismes de leur point de départ, même avant leur départ, jusqu'à leur point d'arrivée. Et enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Calais. À Calais, ils en subissent d'autres entre les décès qu'il y a chez les gens. Là, en un mois et demi, en début d'année, il y a eu 3 décès. Que ce soit chute de camion, percuté par les trains. Il y a eu le gros naufrage qu'il y a eu l'automne dernier où 24 personnes sont décédées. Et ne serait-ce que le fait de ne pas être vu comme un humain, ça crée des dommages mentaux assez importants. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique par rapport à ces situations qui sont absolument catastrophiques ?
Peut-être qu'on n'en parle pas assez. En même temps, il ne faudrait pas saouler les gens avec ça. Mais pour le pays des droits de l'homme, c'est assez déplorable tout ce qui est fait. Et que ces dernières années, il y a plus la parole aux Zemmour et compagnie qu'à Cédric Herrou ou aux assos ou même aux exilés eux-mêmes. Quoi.
La fête du slip, c'est un peu un ton humoristique pour amener du monde. Tu dis, il ne faut pas saouler les gens avec ça. Justement, en disant, on va faire la fête du slip, c'est aussi mettre un petit peu de baume au cœur. Pour, même pour nous qui donnons un petit peu de temps et un peu d'argent pour ça, c'est vraiment fait pour ça ou
Ça fait un événement qui permet de rassembler du monde et qui permet de discuter de la cause et sans être une conférence où tout le monde est assis et voilà, donc j'espère qu'il y aura du monde et merci. Que les gens paieront leur slip. Et un gros merci à tous les gens qui ont donné des denrées pour le stand de nourriture, notamment Biojour, Nico et Christelle, les boulangers, Kelly aussi. Et un gros merci à tout le monde.
Et merci beaucoup à toi, Thomas. De retour en studio.
Les beaux jours arrivent et avec le printemps, les musées réouvrent peu à peu leurs portes. Et nous partons ce matin au Vigan, au musée Sévenol. Estelle Bougette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du musée Sévenol qui réouvre le 1er avril. Merci d'être avec nous. L'idée d'un musée Sévenol, les Cévennes, c'est tellement riche d'histoire, de tradition, de savoir-faire. Alors quand et pourquoi l'idée de ce musée est-elle née ?
Alors c'est une histoire un petit peu ancienne. Cette idée est née d'une volonté municipale. C'était le maire en 1959 qui a souhaité avoir un musée sur sa commune. Donc pour cela, il a fait appel à une dame qu'il connaissait qui s'appelait Odette Tessier-Ducrot. Et Odette Tessier-Ducrot travaillait à cette époque-là à Paris au Musée national des arts et traditions populaires. Mmh. Et elle a bien voulu bénévolement aider la municipalité à créer un musée. Et donc un musée qu'elle connaissait bien, donc un musée de société.
Mmh. Et donc le musée est né en 1963, c'est ça ?
C'est ça. Il a fallu 2 ans pour rassembler quelques collections. Et donc, le musée a été inauguré, comme vous l'avez dit, en 1963, avec une seule vitrine qui évoquait, bien sûr, le passé séricicole des Cévennes.
Mmh. Alors, justement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce musée, commençons par les collections permanentes, ou plus simplement, on y voit quoi au musée Sévenol ?
Alors, donc, toute l'aventure de la sériciculture a une très, très grande et très, très longue vitrine. Et qui est complété dans une salle d'ethnologie où on peut rencontrer donc la culture de la châtaigne, du châtaignier, toute l'épopée de l'agropastoralisme du néolithique à nos jours, et également les traditions familiales pour tuer le cochon qui a apporté donc la charcuterie pour toute l'année, et aussi la culture de la vigne.
Mmh. Ça doit faire une sacrée collection tout ça.
Voilà, là, c'est une première salle, c'est pas fini.
Ah.
Voilà. Après, on a une salle qui évoque les métiers autrefois qui étaient pratiqués dans les Cévennes méridionales et sur l'Écosse. Donc là, on a tout le travail de la vannerie. le travail des verriers, de la poterie, des ferblantiers. Et puis on a aussi les sabotiers, les tonneliers qui sont évoqués dans des reconstitutions d'intérieur, dans les étages, ainsi qu'un dernier atelier qui est celui du tourneur sur bois.
Mmh. Ouais, quand je disais que les Cévennes étaient riches d'histoire, de tradition et de savoir-faire, c'était un euphémisme en fait.
Voilà.
Quel est pour vous, si l'on est, hein, le plus bel objet ou le plus incroyable?
Ah, ça c'est la question piège. Ils sont tous beaux, c'est compliqué. Alors après, ben je vais parler de... Il y en a un qui me paraît assez incontournable. En fait, c'est une stèle menhir qui a été découverte en 2009, mais qui date de 4000 ans.
Ouf.
Voilà, du néolithique. Donc on a aussi une salle d'histoire où sont présentés des vêtements du 18e et du 19e siècle en soie. Mmh. Et c'est aussi des pièces de la collection qui sont assez remarquables.
Ça donne envie en tout cas. Alors avant de parler de l'expo temporaire qui a lieu jusqu'au mois de juin, je crois, fin juin,
oui.
Vous avez réalisé avec l'équipe du musée, j'ai vu ça sur votre site, trois petits films qui sont disponibles. Ça s'appelle Voyage dans les Causses et Cévennes. Pourquoi ou plus exactement pour qui ont-ils été créés?
Alors en fait, c'est pas nous qui les avons créés, on redirige, parce qu'en fait le musée est ambassadeur des Causses et des Cévennes. Mmh. Alors je pense que vous connaissez le classement des Causses et des Cévennes au titre de l'agropastoralisme, c'est un bien UNESCO.
À l'UNESCO, ouais.
Et donc je pense que toute l'année dernière, vous avez entendu, il y a eu plusieurs événements pour fêter les 10 ans de ce classement. Et l'entente interdépartementale des Causses et Cévennes a été associée à un projet mené par des écoles aveyronnaises pour évoquer justement ce que sont les Causses et les Cévennes et surtout l'agropastoralisme.
Mmh.
Et donc ils nous ont fait part de ces petits films et j'ai trouvé vraiment très intéressant et c'est toujours bien de mettre en valeur le travail des enfants. Donc j'ai demandé si c'était possible de valoriser ce travail et cette présentation sur notre site, et bien sûr, on a eu un avis favorable. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver ces petits films réalisés par des enfants et qui présentent bien l'image des Causses et des Cévennes.
Ouais, ils ont assuré les enfants, bravo. Et l'entente qui est juste ici, à côté de chez nous, qu'on salue évidemment. Jusque fin juin, donc, vous accueillez une expo temporaire qui a l'air excellente, le Louvre en voyage 1939-1945. Alors, dans les murs du musée, qu'on comprenne bien, ce ne sont pas des œuvres du Louvre hein, qui sont exposées, mais bel et bien, comment ont pu survivre les œuvres du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça?
C'est ça.
Alors, concrètement, comment ça se présente?
Alors concrètement, on a utilisé donc les mémoires de Lucie Mazoric. Alors Lucie Mazoric, elle était en 1939, elle était conservatrice des archives du musée du Louvre.
Mmh.
Et si on l'a choisie, c'est pas un hasard, c'est que c'est l'épouse de André Chanson. Donc dans les Cévennes, c'est quand même un monsieur qui est connu.
Ouais.
Donc en quelques mots, donc c'est un écrivain académicien et j'en profite pour dire que donc on a une salle au musée qui lui est dédiée et comme ça on aura fait le tour de l'ensemble des salles du musée et donc parce qu'on connaît donc la famille Chanson Vell, on a eu l'idée de rendre hommage donc à cette famille puisque Lucie Mazoric a raconté dans un livre qui s'appelle Ma vie de château a raconté ce périple assez extraordinaire. Des œuvres du Louvre qui ont été sauvées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, l'idée revient à Jacques Jaujard, qui était le conservateur en chef des musées nationaux à cette époque-là, et qui a pressenti l'arrivée des Allemands, et il savait qu'ils étaient épris de culture et de beaux-arts.
Mmh.
Donc il s'est dit, il faut protéger les œuvres du plus grand musée.
Donc il a
mobilisé en fait tout le personnel de musée. C'était au mois d'août 1939. Donc il y avait les gardiens, mais il y avait aussi les associations d'amis du musée. Il y avait aussi le personnel de la Samaritaine, le grand magasin qui était à côté. Et ils se sont mis à emballer et à mettre en caisse toutes les œuvres qu'ils ont pu.
Mmh.
Et toutes ces œuvres sont parties en camion direction le château de Chambord. Donc on a utilisé le récit de Lucie Mazoric pour raconter ce voyage extraordinaire.
Mmh.
Donc dans les murs du musée, on a une quinzaine de panneaux qui nous racontent étape après étape ce voyage, avec bien sûr des illustrations de photos d'archives, à la fois des œuvres mais des camions et du personnel qui est parti avec ces œuvres.
Mmh.
Et on a choisi aussi une douzaine d'anecdotes qui ont été représentés sur des planches de bande dessinée. Donc on a fait appel à un dessinateur qui est aussi professeur donc au lycée du Vigan, le lycée André Chanson. Mmh. Et donc il a bien voulu nous faire donc des illustrations. Donc c'est une exposition assez complète avec du texte, des images, des photos et des dessins de bande dessinée.
Et qui continue hors les murs, puisque en dehors du musée, ce sont des reproductions qu'on peut voir. Il y en a quand même quelques-unes. Hein.
Oui, alors il y en a un peu, il y en a pas loin de 70, mais même un peu plus. Mm-hmm. Donc là, ça a été donc le musée municipal et quand l'exposition s'est dessinée, on était en période de confinement et on s'est dit il faut trouver une solution pour apporter l'art au plus près du public. Et donc au début, on avait souhaité mettre une vingtaine de reproductions dans la ville. Et la municipalité a dit non, c'est pas suffisant, il faut voir beaucoup plus grand. Et du coup, c'est comme ça qu'est né ce projet de diffuser sur tout le territoire qui est autour du musée, donc des reproductions en taille réelle des œuvres qui ont voyagé. Mmh. Donc pour vous donner une idée, la plus grande fait pas loin de 10 mètres sur 7.
Quand même.
Et la plus petite, qui est la dentelière de Vermeer, fait 24 cm sur 24.
Et elles doivent être super bien protégées parce qu'elles ont résisté à l'hiver et l'expo est visible jusque et depuis juillet dernier jusque juin.
Voilà. Oui. Alors ce sont des reproductions, oui, c'est-à-dire c'est des photos, hein, c'est des photos qu'on a placées sur des matériaux et qu'on a ensuite accrochées. Donc on a fait appel à toutes les municipalités donc qui sont proches du musée et toutes ont répondu favorablement. Donc on les en remercie, on en profite. Hein. Et donc toutes ont joué le jeu de mettre à disposition un bâtiment public pour pouvoir accrocher donc ces reproductions.
L'expo temporaire, en tout cas, a l'air absolument génial, comme le musée en général. D'ailleurs, alors, est-ce que vous avez d'autres projets en vue pour cette saison 2022, sachant qu'en général, vous êtes ouvert jusqu'à octobre, novembre, c'est ça?
Oui, c'est ça, jusqu'à octobre, jusqu'à fin octobre.
Et que sur votre site internet, les conférences ou autres événements que vous organisez sont en cours de programmation. Est-ce que vous avez quand même quelques progs déjà organisés?
Alors, je vais vous dévoiler le sujet de la prochaine exposition qui va débuter donc au mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est l'abeille au naturel du monde aux Cévennes. Donc ça sera une exposition photo réalisée par Éric Tourneret, qui est un photographe qui a déjà parcouru le monde pour photographier les différents types d'apiculteurs et d'apiculture qui se pratiquent à travers le monde.
Mmh. Ça c'est génial. Donc ça ce sera à partir de début juillet, c'est ça, juste après.
De début juillet, voilà, de juillet à octobre. Et donc là, ben, comme vous l'avez dit, on est en train d'affiner la programmation avec des ateliers, avec des conférences pour que le public puisse découvrir cette exposition photo d'une autre façon aussi.
Musée-sevenol.fr pour la programmation à venir. N'oublions pas qu'il y a aussi, depuis longtemps d'ailleurs, l'association Les Amis du Musée, qui a été créée 6 ans après la création du musée, soit en 69 si j'ai bien compté. Quels sont, disons, leurs rôles? Que font-ils autour du musée?
Alors, ils ont un rôle principalement pour nous aider dans les animations. Donc parfois on construit ensemble des animations ou des ateliers. Donc c'est leur rôle principal. Et puis comme beaucoup de d'associations d'amis du musée, ils nous aident aussi ponctuellement, financièrement pour l'acquisition d'objets.
Merci beaucoup Estelle Bougette.
Bah écoutez, merci à vous et belle fin de journée.
Vous êtes la responsable du musée Sevenol au Vigan qui réouvre ses portes pour la saison. C'est ce 1er avril et ce sera du mercredi au dimanche inclus de 10h à midi, de 14h à 18h. L'expo temporaire, le Louvre en voyage, ce sera jusqu'en juin, suivi par l'abeille au naturel du monde au Cévennes, ça sera à partir de début juillet. C'est passionnant, vous pouvez retrouver toutes les infos auditeurs auditrices sur le site musée-sevenol.fr. Excellente saison à vous et à bientôt.
On fait une petite pause musicale avec Cléo Marie, le morceau s'appelle Fêlure.
Fêlure est grande. Fêlure est grande. On se rattrape aux cordes, on se rattrape aux branches. Fêlure est la distance des amours qu'on épanche. Elle creuse un trou immense dans l'argile du malheur. Fêlure confond parfois le vide et la douceur. On s'invente une histoire et des points de repère. figura-t-elle un père dont elle serait la mère? Elle nous offre l'opium de son sable mouvant, qui un jour de grand froid se transforme en ciment. Fêlure est grande et tu entres entière dedans. 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 Fêlure est une bouche qui avale goulûment les plaisirs de passage pour combler le dedans. De médecines assises dans canapé glaçant, on mélange bonheur et déni des sentiments. Fêlure est le mystère qu'on aime déguiser en princesse de pierre prête à assassiner. Le jour où la couronne nous aura dévorés, elle règnera sur le corps qu'on lui a légué.
Tomber en amour, c'est un excellent spectacle qui s'est joué à Méruès, c'était il y a une quinzaine de jours. On vous en avait déjà fait écouter une petite partie, le voici en entier, enjoy. Laurence Henry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène, autrice, comment ?
Auteur.
Auteur et scénographe de Tomber en amour qu'on vient voir ici à Méruès. Le spectacle vient de se finir. Comment ça s'est passé pour vous ?
Pour moi, ça se passe toujours bien. En fait, ce qui compte, c'est la rencontre. Donc cette rencontre entre des spectateurs qui ont fait le choix de venir et ce projet, cette proposition qui est voilà, à mi-chemin de deux générations. Donc oui.
Voilà, une grand-mère, un adolescent, surtout l'adolescent. D'où est partie l'idée de cette pièce ?
Cette pièce elle s'inscrit dans un cycle de quatre pièces qui questionne l'enfance comme un endroit possible dans lequel on va vivre, évoluer, dans lequel on va grandir. Peut-être qu'un jour on va le quitter, mais c'est toujours là. Et donc cette quatrième pièce clôt ce territoire de l'enfance en se disant que peut-être quand on tombe amoureux, c'est peut-être la fin de l'enfance, on ne sait pas.
Pourtant c'est toujours le début de quelque chose puisqu'on tombe en amour à l'adolescence, quand on a 30, 40, 50 ans, et même là c'est le cas aussi pour la grand-mère, c'est toujours le début de quelque chose aussi.
Ah oui, c'est indéniable. J'avais envie que cette grand-mère qui l'accompagne puisse lui dire « mais laisse-toi tomber ». Elle a cette grande qualité de pouvoir dire « ça m'est déjà arrivé, je n'ai plus peur, de toute manière j'ai même pas le temps d'avoir peur ». Donc prends, laisse-toi tomber avec ce qui est en train d'arriver.
Est-ce que le texte donc de l'adolescent est écrit au mot près ? On le sent révolté, mais on le sent aussi révolté, oui, mais aussi contre les grands, contre les adultes, contre ce monde qui n'a pas envie d'y être. Est-ce que c'est écrit au mot près et le comédien le dit, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui
sont rajoutées ? Non, non. En fait, cette partition, il faut pour lui qu'il la tienne, sinon il est perdu, parce que ce sont des adresses différentes, des regards différents, des postures différentes. Et donc, ce texte, c'est du mot à mot. Et s'il accroche sur un mot, ça le met... Alors, il y arrive, hein, mais non, ça, vraiment, c'est une...
Au niveau de la mise en scène, vous avez fait des choix aussi, c'est-à-dire vous ne voulez pas un public devant. Ici à Maywood, donc on voit, on s'imagine les deux publics qui sont face à face, l'adolescent et la grand-mère qui sont au milieu. Pourquoi vous avez fait ce choix ?
L'idée, c'était de symboliser l'adolescence comme un couloir, et de part et d'autre, de ce couloir, il y a à la fois les témoins de cette transformation, les spectateurs, les joueurs de basket, ceux qui en rigolent, ceux qui observent, ceux qui sont touchés, ceux qui sont en dehors, un peu comme si c'était un rat de laboratoire. Et j'avais vraiment envie de cette configuration de part et d'autre du monde. Il n'est jamais tranquille. Un peu comme vous le dites, les mots qui sont sans cesse, qui lui sont donnés, il est assommé par ces mots, et j'avais envie de cette chose-là.
Est-ce qu'à chaque fois, les comédiens vous surprennent ?
Oui. Là, je pense qu'ils ont joué la pièce plus de 80 fois. Oui. Oui, parce que Thomas, il joue selon les spectateurs qui sont là. Et oui, parce que Françoise, de son grand âge, se permet des petites fantaisies. Et parfois, ils vont un peu plus en force, ils sont plus joueurs, et des fois, ils sont plus tendres. Donc oui. Ouais, j'aime beaucoup les voir évoluer.
L'instant promo, une petite phrase pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Nous, on a eu la chance de le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle et qui doivent venir voir ce spectacle.
Tomber en amour, c'est la chute, mais on s'en relève. Il n'y a rien de plus beau que de laisser son cœur battre. Je crois.
Merci beaucoup.
Merci Laurence. À vous.
Bonjour à tous les deux, merci de prendre votre temps. On sort de la pièce Tomber en amour. Je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs.
Moi, je suis Thomas Coupet.
Et Françoise Valgeutz.
Danseuse comédien et danseur comédien tous les deux.
Oui, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je suis moins comédienne que lui, mais...
Moi, je suis moins danseur qu'elle. Voilà.
Quelle performance ! On va commencer par vous. Vous arrivez sur la scène, donc vous jouez le rôle d'un adolescent révolté, tout feu, tout flamme. Qui va tomber en amour, on va en parler, mais surtout, vous arrivez sur la scène en feu directement. Comment ça se passe dans la tête ? Qu'est-ce qui se passe juste avant de monter sur scène ? Est-ce que vous dites, ok, je suis bon pour le marathon, je suis parti, je suis échauffé, je suis chaud. Comment ça se passe ?
Oui, en effet, il y a un petit peu un aspect marathon, puisqu'il y a tout ce début du spectacle qui est un peu dans une énergie assez haute. Mais je me dis pas ça quand même en rentrant. Au contraire, j'essaye d'oublier et d'être plutôt vierge en arrivant et de pas savoir ce qui va se passer pour essayer de découvrir. Donc j'essaye pas de me raconter que je vais faire un marathon, à l'inverse.
Vous jouez la grand-mère, vous arrivez tout de suite sur scène, donc on vous voit, mais vous, très posé, très calme. Vous allez observer cet adolescent qui est votre petit-fils. Est-ce qu'il vous surprend à chaque fois sur scène ? Est-ce que c'est la même chose ? Et est-ce que vous allez apporter à chaque fois la même attention ou, suivant son énergie, en fait, vous allez faire évoluer votre regard ?
Oui, ça change, ça c'est super, parce que je le connais bien, et donc j'aime beaucoup être à l'écoute de ce qu'il va faire, et s'il me surprend, ça m'aide aussi, parce que du coup, mon comportement change, ou mon écoute est plus profonde ou plus gaie ou plus superficielle ou plus... Pas superficielle non, parce que je suis vraiment à l'écoute tout le temps de lui, mais en même temps où je suis plus un côté plus triste, plus dur quand il s'énerve ou tout ça. Donc, et comme il change, ça dépend aussi du public, parce que quand on a un public que de collégiens, c'est pas du tout son même comportement, il a une autre énergie et ça j'adore, et quand c'est un tout public, ça change aussi beaucoup. Donc c'est un plus pour moi, parce que ça m'oblige d'être à l'écoute, mais vraiment sincèrement à l'écoute. Donc voilà, c'est un plaisir.
Silence ! Ils disent ça. Silence ! Fermez les portes ! Ma mère me dit « Ta chambre ? T'as vu ta chambre ? Tu peux la ranger, s'il te plaît ? Tu veux faire ça, s'il te plaît ? Qui va la ranger ? Et mettre la table pour une fois ? Et où je te parle ? Non, tu sors pas ce soir, c'est tout, c'est comme ça, je l'ai décidé. Je dois te rappeler l'âge que tu as, que t'es encore sous notre responsabilité. »
La pièce avait été écrite pour vous. Est-ce que vous auriez eu la force de la refuser, ou la pièce était trop belle et vous dites non, mais si je passe à côté de ça, c'est fini.
C'est un peu différent pour nous deux, parce que moi j'ai passé une audition pour donc j'avais déjà toutes les données quand j'ai passé l'audition. Donc c'était si j'y allais, c'est que j'y allais.
Tandis que moi, je sortais d'une autre pièce qui était en un éclat, et ça fermait un peu la boucle. Et longtemps, Laurence m'a proposé de jouer ce rôle, enfin d'être la grand-mère. J'ai attendu longtemps parce que je trouvais que c'était pas forcément utile. Je trouve que son personnage d'ado, il est très fort et il peut se suffire à lui-même. Et puis un jour, j'ai dit oui parce que j'adore le travail de Laurence et que c'est d'une richesse. À chaque fois, on apprend. Et moi, apprendre encore maintenant, c'est quand même super. J'ai beaucoup de chance. Hein, je suis encore en train d'apprendre. Donc, vous voyez, j'ai dit oui vite. Pas vite, mais j'ai dit oui.
Est-ce que votre alchimie, votre jeu, tous les deux, le rapport grand-mère, petit-fils, qui est quand même un rapport extraordinaire dans la vie, je pense, de tout le monde, à part ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir des grands-parents. Est-ce que vous deux, l'alchimie s'est faite tout de suite ou il a fallu ce petit temps d'adaptation et ce travail ?
Non, ça s'est fait tout de suite.
Tout de suite un vraiment très bon contact, et moi qui sortais d'un autre garçon qui avait le même âge que lui et qui était un hip-hopper et tout, et c'était pas du tout le même garçon, pas du tout les mêmes conditions, et on s'est tout de suite bien entendu, et ça c'est un bon plus, hein, quand même, ça a marché tout de suite.
Un petit mot sur votre partenaire.
Non, c'est une super partenaire. Et c'est assez incroyable d'avoir quelqu'un qui donne cette écoute là en fait, et c'est assez rare en fait aussi d'avoir quelqu'un qui va donner le temps de cette écoute, parce que j'ai quand même ce début là où je suis un peu tout seul. Enfin, je suis pas tout seul, mais je suis au plateau et t'es sur le bord du plateau, et je sais que t'es là, et en fait ça change énormément de choses, et parce qu'il y a une écoute très très forte de la part de Françoise.
Et ben moi je trouve que c'est un comédien extraordinaire. Je peux dire que chaque fois je me régale. Je trouve qu'il a une énergie spontanée, naturelle, enfin, et volontaire en même temps, mais pleine, riche. Je me régale à chaque fois, et à partir du moment où on joue ensemble, quand on commence à jouer ensemble, c'est tout bien, quoi. Et il a préparé le terrain et il met en condition, parce que je prends beaucoup de son énergie, beaucoup, beaucoup. Je peux faire à la fin parce que il m'a donné toute cette énergie. Hein.
Ouais, elle a aussi une énergie hyper solaire et qu'elle permet, elle donne. C'est vrai que elle donne une couleur en fait énormément aussi à ce personnage d'adolescent. Je pense qu'il pourrait pas être comme ça s'il n'y avait pas cette grand-mère et cette actrice avec cette énergie-là.
Les profs disent. Marchez en rang. Marchez en rang, ne courez pas dans les couloirs, les sacs, là. Rangez vos sacs à vos pieds. Comment faut-vous le dire ? Chut ! Taisez-vous ! Sortez vos cahiers. Tenez-vous droit, là, redressez-vous. Vous avez vu comme vous êtes avachis ? On n'est pas dans votre salle de bain, on se tient droit, merci. Et enlevez vos vestes.
Une petite phrase d'accroche, venez voir Tomber en amour, pourquoi ?
Pour vivre... Pour partager, en tout cas, quelque chose. Se demander ce que c'est que cette adolescence.
Soyons sérieux. Il s'agit simplement de mesures coercitives sur la consommation débridée, sur nos lectures et modes de pensée, pas sur nous-mêmes, hein, ni même sur nos opinions esthétiques, érotiques, ésotériques, éthiques, physiques, métaphysiques, politiques. On pourrait rester libre, non ? Il s'agit simplement de consommer un peu moins, bordel.
Pour partager, parce que la disposition le permet, et comme on a un contact direct avec le public, ça c'est assez rare quand même, parce que là on est, lui leur parle, mais moi je sais qu'ils sont là aussi, et qu'il y a toutes sortes de, ça c'est la façon dont c'est présenté, c'est une très belle pièce, faut venir la voir, c'est tout sur l'ado, c'est tout, et tous les bons côtés aussi, pas, voilà, c'est une belle démarche, et c'est le résultat d'un très beau travail en amont. Ça, il faut. Et si cette pièce, elle est riche, c'est parce qu'il y a eu tout ce dont a parlé Laurence. Ce travail en amont, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
Merci Corto.
Eh ben, c'était avec plaisir.
On a eu le petit rush du lundi matin.
Le petit bad.
C'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec Adèle qui est chargée de com pour le festival de la Meufolle. Ce sera les 8 et 9 avril prochains à côté d'Alès. On a une convention avec eux comme tous les ans. On va se quitter avec Cléo Marie. Le morceau s'appelle Mon Ami. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. À mercredi. Ciao.
années, des années à se taire. Quand la douleur prospère, je ne pensais pas un jour te parler. Mon ami, moi je ne peux contre un sourire sécher vos larmes. Mon ami, moi je ne veux parler du pire et de vos drames. Restez ici, je vous invite à vous blottir dans mon silence. Restez en vie, qu'ils se délitent, on va grandir quoi qu'ils en pensent. Il en reste du ciment, même si les briques d'antan sur le mur écarlate sont tombées. Il en faut du courage pour briser l'héritage de ces ombres qui traversent les années. Mon ami, moi je ne peux contre un sourire sécher vos larmes. Mon ami, moi je ne veux parler du pire et de vos drames. Restez ici, je vous invite à vous blottir dans mon silence. Restez en vie, qu'ils se délitent, on va grandir quoi qu'ils en pensent. Mon ami, partons ensemble, rions des autres et du vacarme. Mon ami, comme le sol tremble quand ils se vautrent derrière leurs armes. Et sous ton lit, le monstre n'est plus, il s'est perdu dans l'innocence. Reste en vie, je suis à nu, je ne veux plus de ton absence.